Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui explore les pistes de réflexion pour être un parent conscient. Je suis Pauline, l'hôte de ce podcast, et un mardi sur deux, j'invite à mon micro des acteurs du changement pour questionner et repenser nos modes de vie, pour nous et les générations futures. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en me laissant des étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, ou encore en partageant sur vos réseaux sociaux. Vous contribuerez ainsi activement à faire connaître Petite Pousse au plus grand nombre, alors merci pour cela. Et maintenant, place à votre épisode.
Je le remarque dès que je sors de chez moi. L'espace public n'est pas pensé pour les enfants et donc par extension pour les mères. Pourtant, à l'arrivée d'un enfant, les mères ont besoin plus que tout de ne pas être isolées. Pour traiter ce sujet, je ne voyais pas d'autre personne que Renée Grezard, journaliste et militante féministe, autrice de plusieurs livres dont deux essais, « Enceinte, tout est possible » et « Choisir d'être mère ». Renée m'a reçue chez elle début avril et malgré son état, elle a réussi à transmettre son vécu et sa flamme. Bonne écoute! Bonjour Renée.
Bonjour Pauline.
Comment tu vas?
Bof. Je vais bof car je sors d'une gastro et que du coup je vais bof, voilà, c'est tout.
En tout cas, merci d'avoir accepté malgré la gastro et ton état. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore et raconter ton parcours s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Moi je suis journaliste, je travaille à l'Obs. Magazine L'Obs. En gros, je suis journaliste, j'ai toujours traité de sujets de société, d'intimité. Et c'est dans ce parcours que j'ai écrit des livres sur la parentalité. Un premier livre sur la grossesse, qui s'appelait « Enceinte, tout est possible », et qui déconstruisait les injonctions faites aux femmes pendant la grossesse. Et un deuxième livre, j'ai écrit d'autres livres, mais mes principaux livres, c'est ça, qui parle des injonctions faites aux femmes dans la parentalité. Et en gros, de tout ce qu'on nous a pas dit sur la parentalité, et que moi, j'ai découvert en devenant mère. Et voilà, en gros, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir mère et que j'ai pas su.
Pourquoi tu t'es intéressée à la parentalité comme sujet journalistique, même si t'as déjà un petit peu répondu à la question?
Alors déjà, je suis féministe, je l'étais à un moment donné où c'était pas cool de l'être, on va dire. Je me souviens qu'on me parlait toujours de ni pute ni soumise à ce moment-là, dès que je disais que j'étais féministe, ou des chiennes de garde.
Oui, chiennes de garde.
Quand moi, j'ai su que j'allais devenir mère, j'avais déjà ma meilleure amie qui avait eu un bébé, j'avais déjà halluciné avec elle de tout ce qu'on lui disait de faire ou de ne pas faire. Comme ma meilleure amie était, et toujours d'ailleurs, très féministe, c'est des sujets qu'on a beaucoup eu toutes les deux, et je savais que moi, en devenant mère, en étant enceinte, j'aurais besoin d'aller explorer ces sujets. Voilà. Moi, en tant que journaliste, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux questions que je me pose, à la base, très égoïstement, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et de toute évidence, quand on est enceinte, on se pose plein de questions. Et moi, les questions que je me posais, c'est « Mais attends, mais tous ces trucs qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Enfin, c'est quoi les études ?» En fait, j'avais besoin qu'on me donne des vraies réponses étayées, documentées, et que ce soit pas juste « ça c'est non, ça c'est oui ». Parce que c'est comme ça qu'on parle aux femmes enceintes pour l'instant. Et pour moi, ça c'est impossible, enfin c'est inenvisageable. Personne ne me parle comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'un des trucs auxquels je tiens énormément, c'est ma liberté, mon libre arbitre. Et pour tout le monde, d'ailleurs, je trouve que c'est important. Et moi, ce que je trouverais sain pour tout le monde, en fait, c'est qu'on dise, voilà les infos. Maintenant, voilà les risques que vous prenez. Et si vous le faites, essayez de faire ça, en fait.
Renée, est-ce que tu as toujours voulu être mère?
Non. Non, je me rappelle que j'ai eu des périodes, mais c'est un peu flou pour moi parce que il faut savoir que j'ai été diagnostiquée pour un TDAH, donc un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et du coup, je suis quand même quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent. J'ai une mémoire pour des choses de ouf, je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé tel jour, ou voilà, ça je peux m'en souvenir, mais il y a d'autres trucs dont je me souviens pas. Très bien, mémoire pas ouf. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moments où je me disais non, moi je suis libre, j'ai pas envie de ça, etc. Et d'autres moments où j'avais très envie de ça, ça a été un peu aléatoire. Et ce que je raconte dans Enceinte, tout est possible, c'est des sociologues qui ont travaillé là-dessus, qui parlent de phénomènes de contagion, ce que je trouve hyper intéressant. En gros, notamment Charlotte de Best, qui a beaucoup travaillé sur pourquoi on fait des enfants. Elle montre qu'en fait, le phénomène de contagion, c'est tout simplement ma meilleure amie qui a un enfant, et moi qui me dis « Ah ben moi aussi, j'ai envie d'avoir un enfant, maintenant c'est à moi. » Donc, mais je me le dis pas de manière aussi idiote, mais en fait, c'est un peu ça qui se passe, et en fait, on voit très bien que c'est vraiment une sorte d'épidémie, les bébés, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un se met à en faire, et puis derrière, on va se mettre à en faire plus, contagion sociale.
Donc toi, ça a été la contagion sociale, en fait. Tu voulais pas d'enfant et d'un coup, tu t'es dit « Ah si, j'en veux un ».
Ben oui, je crois que c'était un peu flou, un peu abstrait. Et qu'en voyant Anne devenir mère, ouais, et puis en découvrant son fils, qui est merveilleux, qui, voilà, enfin, ce petit bébé adorable, cette espèce de, je sais pas, de puissance, d'amour, de soin, ça m'a, ouais, ça m'a attirée.
Et du coup, comment se sont passées tes grossesses et tes accouchements, si t'es OK pour en parler?
Ah oui, oui, je n'ai pas beaucoup de tabous. Mon intimité n'est pas placée exactement au même endroit que les autres, donc voilà. Alors, mes grossesses, la première, franchement, super bien. J'ai vomi les trois premiers mois, mais voilà. J'étais jeune et fraîche. Quel âge j'avais ? 30 ans. Je courais beaucoup avant d'être enceinte et je pense que je suis arrivée dans cette grossesse dans une forme physique plutôt bonne. Non, mais franchement, la grossesse s'est super bien passée. Moi, j'adore les premières fois. J'adore découvrir des choses, je suis curieuse. Donc tout ça était vraiment une nouvelle activité, quoi. C'était là, ouh, alors, qu'est-ce qui se passe par ici ? C'est très intéressant, très bien, faisons ça. Allons faire du yoga prénatal ou je ne sais quoi, de l'autonomie, super, super. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Et la deuxième, bon, bah, comme j'ai beaucoup d'attrait pour les premières fois, la deuxième était moins dans cette dynamique de l'excitation de la première fois. Mais ça s'est plutôt bien passé, juste, j'ai trouvé ça plus dur quand même. Bah, en fait, j'ai accouché à 38 ans. Clairement, mon corps n'a pas encaissé le choc de la même manière. Enfin, j'ai senti que c'était quand même lourd, quoi. Bah, littéralement lourd, puisque mon fils pesait 3,5 kg à la naissance.
Ah oui, pas mal.
Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, le premier, il pesait 2,8 kg et il est né 2 semaines avant son terme. Et le deuxième, 3,5 kg, et il est né 2 jours avant le terme. Et juste, mais j'en pouvais plus. J'ai des vidéos de moi où on est dans la rue et j'ai du mal à marcher. C'est vraiment super dur. Et mon mec me filme en me disant « Alors, un petit mot pour le nouveau-né. Moi, je... Sors ! J'en peux plus ! Sors !» Donc voilà, dans la deuxième, c'était moins ouf, ouais.
Tu peux rappeler juste l'âge qu'ont tes enfants?
Bien sûr. Donc, Huys vient d'avoir 9 ans, ce qui me paraît complètement hallucinant. Pour moi, c'est toujours mon tout petit crapaud qui est né un 18 mars 2015. Et Orso a 18 mois. Voilà, il déménage.
Ouais, je veux bien te croire. Et à quel moment de ta maternité, tu as commencé à ressentir des inégalités par rapport au père ? Alors, la question que je t'avais envoyée, c'était au père au singulier. Et en fait, hier, quand je l'ai réécrite, c'est au père au pluriel. Les pères comme classe sociale.
Dès la grossesse, hein, je trouvais que c'était flagrant. C'est-à-dire que moi, dans les choses qui me questionnent beaucoup et qui continuent de m'étonner, en fait, et voilà, c'est la place des coparents. Et quand je dis coparents, en fait, je parle des pères, parce que dans les couples lesbiens, on sait hein, que ce n'est pas les mêmes problématiques, dans les couples queer en général. Mais clairement, moi, de me retrouver toute seule avec des meufs à la préparation à la naissance, j'étais là, mais d'où, en fait ? Enfin, certes, c'est mon corps qui va expulser ce bébé, mais les pères sont hyper importants, en fait, dans la naissance d'un enfant. Il s'est passé des choses même un peu drôles, parce que, du coup, mes deux mecs, je les ai aussi choisis comme ça, hein. Bah, de fait, c'est des pères qui sont très impliqués. Donc, en fait, moi, à tous mes rendez-vous de grossesse, ils étaient là, aux échographies, évidemment, mais aussi préparation à la naissance. Et c'est vrai que le pire pour la grossesse d'Ulysse, c'était de voir à quel point Julien était souvent tout seul, en fait. Quoi. Moi, j'hallucinais de ces groupes de femmes où t'avais juste mon mec, quoi. Ou vraiment, comme si... la sensation que j'avais, c'était que l'accouchement était censé être que le sujet des femmes. Comme si elles n'allaient pas être accompagnées ce jour-là. Comme si l'enfant qu'elles portaient n'était pas un enfant conçu à deux. Et alors nous, dans notre cas, c'est même devenu comique un jour parce qu'il y avait un truc sur, une préparation à la naissance où il y avait des questions de périnée ou quoi. Et il se trouve que j'ai eu une urgence de travail en plein milieu de l'activité. L'activité, tu vois, je continue de parler. Comme si c'était Euro Disney. De l'activité périnée. Et en fait, du coup, j'ai dû aller au travail en urgence et quitter cette séance, quoi. Et mon mec s'est retrouvé tout seul avec une... Mais je le raconte dans le livre. La prof qui disait « Et donc là, réfléchissez à votre périnée, vous contractez votre... »
Les hommes ont un périnée, hein.
Les hommes ont un périnée. Mais c'est vrai que Julien, pendant ce temps, m'envoyait des messages. Et je crois qu'il était un peu saoulé en me disant « On me demande de contracter mon périnée !» Je j'étais là, sorry. Bon, bref. Mais donc voilà, moi j'ai toujours eu des pères, enfin les deux pères de mes deux fils ont été très impliqués et étaient là. En fait, à chaque fois, j'hallucinais de la place qu'ils avaient et justement de comment on allait trouver ça génial qu'un père soit là pour. Une séance de préparation à la naissance ou au rendez-vous et toi t'es là mais en fait c'est son enfant, enfin juste c'est la base et derrière bon bah voilà a, j'ai mon mec qui vient d'amener notre fils pour se faire vacciner contre la varicelle. Je sais que typiquement ce genre de choses peuvent déclencher des ah mais il est super ton mec, bravo. Enfin moi j'ai enfin moi avec Clément parce que je crois que le monde a un peu évolué entre temps, ils ont quand même 7 ans de différence les deux enfants, mais vraiment je me souviens de gens qui disaient Julien il est vraiment waouh quoi, il est super quoi. Moi j'étais là genre en fait il fait son travail de père quoi, c'est juste oui il est super mais pas plus que moi, enfin on est super tous les deux dans ce cas-là quoi, soit on est super tous les deux soit personne n'est super mais en fait il n'y a pas une personne qui est super et l'autre qui ne l'est pas, donc ce truc de dad blessing je l'ai senti très vite. Et puis après moi en m'intéressant au sujet notamment surtout pour le livre sur les tabous de la parentalité, j'ai halluciné. En fait, je savais que j'allais trouver des chiffres qui me diraient que bah, les femmes s'occupent plus des enfants, etc. Mais j'ai halluciné de voir ces chiffres, de les lire écrits, de voir que les femmes s'occupent deux fois plus des enfants que les hommes. Et les hommes s'occupent vraiment, en fait, en tout, moins des enfants que les femmes. Le seul endroit où, en fait, ils s'en occupent plus, c'est pour jouer. Donc, en fait, les chiffres où on voit que les hommes s'occupent plus des enfants, bah, c'est quand il s'agit de jouer. Est-ce que vous jouez plus avec votre enfant? Bah, oui, c'est moi. Je joue plus. Je suis un homme. Là, tu te dis, non, mais en fait, c'est lunaire, quoi. Enfin, donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au sujet. Et puis, moi, en étant féministe, c'est vrai que ça m'a toujours intéressée d'observer ces inégalités. Et je dois dire, alors ça, c'est marrant parce que souvent, les gens croient que quand on est féministe, on est juste en colère. Moi, c'est presque. J'ai pas fait des études de sociologie, mais j'en ai fait un peu quand j'ai fait des études de cinéma ou quoi. Enfin voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi d'observer le système, quoi. Enfin, je suis dans un truc très. Comme on observerait une société de poissons, quoi. Enfin, un truc où ça me fascine toujours de me dire ah ouais, ok, donc parce que tu as un zizi entre les jambes, en fait, tu vas beaucoup moins t'occuper de tes enfants. C'est ça qui se passe pour les êtres humains, quoi. Donc, parce que tu as une vulve entre les jambes, à 80%, c'est toi qui t'occupes d'amener l'enfant chez le médecin. Fascinant. Enfin, vraiment, tu vois, c'est un truc qui continue de me dire, en fait, ce qu'on a entre les jambes détermine comment on va s'occuper de nos enfants.
Ouais, ou c'est intuitif. Hein. Des fois, mon compagnon, il me pose des questions sur notre fils. Je lui dis, mais tu sais, je suis pas sachante, en fait. Enfin, c'est pas. T'as un super ordinateur qui s'appelle Google, ouais, en fait. Et, en plus, tu l'as souvent entre les mains, donc ça, c'est.
C'est ça, ouais.
Je suis, en fait, tu fais comme moi, tu cherches, ouais. Tout simplement. Tu vas chercher l'information, quoi. C'est. D'un fois, j'ai fait remarquer, je te rends compte qu'en 3 ans, tu ne lui as jamais coupé les ongles. Il me dit, mais c'est tout petit, j'ose pas et tout, machin. Je suis, oui, c'est sûr, il faut faire preuve de minutie. Et bon, bah, lui, il a un peu plus des grosses patounes, quoi. Je dis, mais bon, bah, quand même, à un moment donné, si je n'étais pas là, tu le ferais quand même, quoi. Donc, allons-y, quoi. Enfin, et puis, les grosses patounes, il y a bien des hommes qui sont chirurgiens. Enfin, voilà, là, pour le coup, tu peux être précis. Là, par contre, on va parler d'un domaine où les hommes cis, là, c'est un peu plus compliqué. On va parler donc d'allaitement. Tu fais d'ailleurs, toi, la distinction entre allaitement au sein et allaitement au biberon. Pourquoi c'est important à tes yeux de faire cette distinction?
En fait, ce qui est très compliqué avec l'allaitement, c'est que on pourrait penser qu'il s'agit juste de nourrir son enfant, et derrière, il y a tout un tas d'injonctions et de culpabilisations. Cette distinction entre allaitement au sein et allaitement au biberon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'avais lu chez Tissue Lecoq, une autrice féministe très stylée. Et en fait, quand elle disait ça, elle-même a donné le biberon à ses enfants. Ce qu'elle disait, en fait, c'est que des deux façons, on nourrit son enfant. Et c'est super important parce que il y a comme un truc où quelque part ce qu'on suggère toujours un petit peu en filigrane, en loose day, c'est que donner le biberon, c'est pas vraiment nourrir son enfant, c'est pas pareil, on n'est pas dans cette implication émotionnelle, on n'est pas dans cette espèce aussi. Et ça c'est super important, de don de soi total à son enfant. Moi j'ai allaité mes enfants, donc je suis pas du tout en train de chier sur l'allaitement. Juste ce qui m'intéresse, c'est aussi de reposer les choses à leur juste endroit. Et il se trouve qu'il y a plein de discours sur l'allaitement qui sont culpabilisants pour les femmes et qui créent de la souffrance. Et moi, l'exemple que je donne toujours, et ça c'est en interviewant une psy qui m'en a parlé, et je trouve ça super intéressant ce qu'elle disait, elle disait, mais en fait, donner à manger à son enfant, personne ne nie que c'est aussi, il y a une nourriture psychique, c'est-à-dire qu'en gros, on va être dans quelque chose, dans l'échange de regards. notamment un nourrisson, il se passe tellement de choses à travers le regard avec un nourrisson. C'est merveilleux d'ailleurs. Mmh. On peut avoir ces regards quand on donne un biberon. Enfin, c'est pas un problème. Personne ne nie non plus que, bah, effectivement, c'est vrai. En théorie, sur le papier, le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Mais à quel prix ? Et en fait, moi, je sais que j'ai mis mes seins, avec mes tétons pleins de sang, dans la bouche de mes enfants, parce que c'est ce qu'on m'avait dit de faire, et que je m'entêtais à allaiter. Et je regrette pas de l'avoir fait. Mais en revanche, c'était mon choix. Ce que je dis, en fait, dans mon livre, c'est que ce qui me semble le plus important, c'est d'être sereine avec son choix. Donc moi, j'étais plus ou moins sereine. Non, j'étais plutôt sereine avec le fait de mettre ces tétons pleins de sang dans la bouche de mon fils. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, c'est grave, ok, de donner un biberon. Et t'es pas une mauvaise mère parce que tu donnes un biberon. Voilà, ce que je raconte aussi, c'est que ma mère, moi, toute mon enfance, ma mère qui est d'origine sénégalaise, toute mon enfance m'a dit une mère qui n'allait pas son enfant est une mauvaise mère. Enfin voilà, une vraie mère, elle allait son enfant. Donc en fait, j'ai composé aussi avec cet héritage-là. Et voilà, et en fait, il y a effectivement ce qu'il y a sur le papier. Sur le papier, on sait que bah, tout ce qu'il y a, les nutriments, enfin voilà, dans le lait maternel, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour un bébé. Mais à ce que je sache, tu vois, je te vois, je sais pas si t'as été allaité au sein ou au biberon, enfin, tu vois, dans la rue, tu te dis pas, oh là là, mon Dieu, ça se voit tellement, lui, qu'il n'a pas eu le sein de sa mère. Tu vois. Donc, enfin, voilà, je pense qu'on s'en remet, enfin, que, bah, il y a plein de choses dans la vie, c'est mieux, et qu'en fait, bah, on fait comme on peut, et c'est que ça. C'est pas grave. Et ça, c'est tout le truc de la parentalité, de se dire, on fait comme on peut, et souvent, le mieux, c'est comme on peut. Et parce que faire pas comme on peut, c'est aller puiser dans ses réserves, dans ses limites, et en fait se mettre à bout et être pas bien. Et moi je dis toujours, qu'est-ce qui vaut mieux quoi, une femme qui donne le biberon sereinement et heureuse, ou une femme qui est en train de pleurer parce qu'elle a mal au sein en donnant son sein à son bébé. Et je dis pas que la deuxième fait un mauvais choix, je dis juste que franchement ça se questionne en fait. Et les maternelles sont quand même aujourd'hui super bien étudiées, enfin tu vois, enfin c'est des trucs en termes de qualité, on sait même que le bio et le pas bio, enfin sont
j'avais bossé avec un labo de lait infantile, et effectivement c'est
tellement contrôlé,
c'est hyper réglementé, c'est hyper enfin en plus j'avais trouvé ça fascinant le processus de fabrication. Donc t'as sur le marché t'en as quand même beaucoup. Donc bon, t'as quand même une offre qui est hyper variée. Mais quand j'allaitais mon fils, j'étais jugeante sur les mères qui donnaient le biberon. En mode, ah, ça va, elle donne le biberon, quoi. Et avec le recul, je me dis, mais pourquoi ? Toi, ça te l'a fait ou pas ?
Non, pas du tout. Moi, quelque part, je pense que j'ai toujours été un peu envieuse. Tu vois, j'étais dans un truc où je me disais badass, quoi. Elles osent. Et c'est marrant parce que tu vois, je sais qu'il y a tout un discours qui dit on n'a pas le droit d'allaiter en public. Et ce qui est vrai, hein, par ailleurs, tu vois, je sais qu'il y a encore des femmes qui se font arrêter parce qu'elles allaitent sur un banc ou quoi. Et c'est vraiment inadmissible et ça donne envie de donner des claques aux concernés, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a un discours hyper culpabilisant sur le fait de ne pas allaiter. Et personnellement, je trouve ce discours plus fort que l'inverse. À la maternité, enfin, tout le monde te dit, ben non, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est allaiter avec, voilà, on donne plus les trucs pour arrêter les montées de lait, enfin, moi je trouve qu'il y a une pression en fait aux femmes très très forte hein, pour allaiter. Donc moi j'étais plutôt dans un truc de composition avec mon héritage psychologique familial de ma mère qui m'avait dit toute ma vie que c'était très très mal de ne pas donner le sein et de me dire, j'aimerais tellement que ce soit simple et me dire, oh non, écoutez, moi, un petit biberon, et puis c'est parti. Ouais. mais voilà, et puis moi, j'ai toujours eu des allaitements ambivalents, c'est qu'il y avait des moments où je me disais, oh, cette dose de love, en fait, de, tu vois, de câlin, de douceur, de cette petite bouche sur mon sein, de ce toucher tout doux de tête, là, enfin, cette douceur infiniment folle. Et aïe, ça fait mal en fait, quoi. Genre, pourquoi tu me fais mal? Laisse-moi. Et puis aussi, aliénation, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très libre, qui a vachement besoin de son espace. Et j'ai jamais été complètement détendue par rapport à l'idée que j'étais un mic-bar, quoi. Enfin,
tu peux pas trop partir longtemps.
Ouais, voilà. Et même, le pire pour moi, c'était les nuits de Java, enfin, le tour d'open bar, là. J'étais là, mais je ne suis pas un open bar, je suis René Grosard. Et ça fait des rimes.
les poussées de croissance aussi.
Ah ouais.
À 3, 6, 9 semaines, mois. Ouais.
T'as l'impression d'être une prise. En fait, je ne sais pas si c'est toi le mur ou l'enfant, quoi. Mais en tout cas, t'es vraiment genre dans un truc.
La moule et le rocher.
C'est ça, c'est toi qui es la moule, qui est le rocher. Bah, après, c'est plutôt toi le rocher, quoi. Ouais. Mais franchement, ça, c'est pas un projet de vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le mur, tu vois, d'être un rocher.
Tu parlais d'allaitement dans l'espace public. Toi, tu es en région parisienne. Est-ce qu'il y a eu des moments, quand tu as allaité tes enfants, dans l'espace public, justement, où tu as eu des moments de gêne ?
Non. Mais ça, c'est pareil, c'est que moi, j'ai toujours été dans quelque chose de... Alors déjà, je pense que je suis pas quelqu'un d'hyper pudique. Je fais beaucoup la fête et j'ai appris en Allemagne à danser en culotte, en club, parce que ça se fait. Et c'est vraiment une des meilleures choses du monde. Je regrette que ça ne soit pas plus normalisé en France, parce que c'est vraiment canon. Je me suis jamais mise complètement toute nue, parce que c'est un peu ma limite. J'ai vu des femmes toutes nues, moi j'étais un peu en mode genre, non, je crois que je pourrais pas faire ça. Mais par contre, danser en culotte au Berghain, franchement, c'est meilleur. Je sais que quand je vais mourir, tu vois, dans mon petit film à la fin, il y aura moi sur un podium en train de danser en culotte, quoi. Vraiment des meilleurs trucs. Donc je vais pas être pudique de base. Pour moi, enfin, tu vois, c'est intéressant d'ailleurs les termes qu'on utilise pour les seins, mais mon torse. Je trouve que c'est intéressant de dire mon torse, tu vois. On sexualise vachement la poitrine des femmes. Voilà, moi, mon torse... Enfin, je sais que c'est mes seins, mais je suis pas... Pour moi, c'est une partie de mon corps qui est pas hyper problématique. Enfin, oui. Je sais pas comment dire. Enfin, gênante, quoi. Et puis, par ailleurs, j'avais toujours un torchon sur moi. Enfin, j'étais tellement pas gênée que je crois que les rares blagues un peu pourries qu'il y a eu, j'ai un peu rembarré les gens.
Ouais.
Ou je trouvais un moyen de leur montrer que c'était un peu absurde de faire un commentaire là-dessus, quoi.
Moi, ça m'est arrivé d'avoir peur parce que ça intervenait au moment où, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une femme qui s'était fait gifler par une autre femme dans une file d'attente, je crois, à la poste, parce qu'elle allaitait au sein de son enfant. Et elle avait un t-shirt en plus, tu sais, qui s'ouvrait sur le côté. Donc, en fait, tu ne voyais rien.
Non, mais ça ne va pas bien.
Du coup, j'ai eu des moments un peu de peur. Mais en final, il ne s'est jamais rien passé, quoi. Je veux dire, une fois, on était au bar avec mon compagnon. Alors, ça m'a rassurée qu'il soit là. Et quand j'ai fini d'allaiter mon fils, il y a une dame qui s'est retournée qui m'a dit « Bravo pour ce que vous faites, j'ai allaité mes trois enfants, je sais ce que c'est comme dévouement, donc bravo. »
Ah ça, d'accord, ouais.
Voilà, je pensais que c'était... Oui, voilà, mais quand j'ai vu voilà, cette dame interpeller, je me dis « Voilà, je vais me prendre une remarque et tout », alors que non, pas du tout. Mais c'était... Mais tant mieux. Mais oui, c'est vrai que ce flou juridique sur l'allaitement dans l'espace public, c'est complètement... C'est quoi, non, aberrant, quoi.
Non.
Là, on va parler du postpartum, parce que la parole, elle se libère de plus en plus autour de ça. Alors, il peut se passer très bien, comme ça peut être difficile, voire très difficile.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Bah, justement, de son côté, comment se sont passés les tiens?
Ah, bah, le premier a été un peu catastrophique. Hein. Voilà, donc toujours cette grande ambivalence de la parentalité, de la maternité en particulier, où... À la fois, t'es dans une découverte amoureuse presque de ton enfant et tu tombes en amour et c'est complètement fou. Et en même temps, cette espèce de sensation de chute, en fait. Vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. En fait, du moment où je me suis retrouvée toute seule, parce que pendant un mois, on était ensemble. À l'époque, il y avait 28 jours de congé, mais... il y avait, pardon, 15 jours de congé, mais mon compagnon s'est débrouillé pour avoir un mois. Mais du moment où il est retourné au travail, c'était infernal. Je pleurais tous les jours, j'étais complètement dépassée, j'étais... Voilà, dans quelque chose où j'étais très très mal, et c'est plus tard qu'on m'a dit que j'avais fait une dépression du postpartum, parce que je n'avais pas du tout identifié, et quand on me l'a dit, ça a été un bouleversement, parce que d'avoir des mots posés sur ce que j'avais vécu, d'un seul coup, c'était très très... Enfin, je trouve même pas les mots encore aujourd'hui, parce que j'ai eu de la peine pour la moi que j'étais alors, quoi, tu vois, de ma solitude d'alors, en fait, j'aurais dû être accompagnée à ce moment-là, et je l'ai pas été, j'étais juste en train de chialer toute seule chez moi, quoi. Et je me souviens très bien qu'à cette époque, quand je sortais avec la poussette avec Ulysse, je regardais les immeubles et je me disais, en fait, c'est un truc de ouf. Potentiellement, dans chacun de ces immeubles, et peut-être de ces étages, il y a une femme toute seule avec un bébé en train de pleurer comme toi. Mmh. Et je me voyais comme ça, comme des petites cellules individuelles en train de chialer chacune. Alors que non, parce que je pense qu'il y en a qui vivent vachement mieux. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était très, très dur. Ce que j'ai mal vécu, et ça m'appartient aussi, hein, j'ai fait 8 ans d'analyse, donc je sais aujourd'hui quels sont mes sujets, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec la solitude de base. Globalement, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel sur la mort, hein, donc voilà, tout ça est très lié en réalité. Le vide égale dans ma tête la mort, donc beaucoup de gens, c'est sympa. C'est une équation qui m'appartient. Voilà, là, c'est quelque chose, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je sais être seule maintenant et même je sais que j'en ai besoin en fait. Donc, c'est des moments dont j'ai besoin, que je chéris, j'organise. Mais à l'époque, je ne savais pas être seule. Et en fait, quand on est avec un nourrisson, on est quand même beaucoup seul en réalité. C'est-à-dire que certes, on peut avoir une relation au bébé. Et moi, j'ai parlé à mes enfants en plus tout de suite, comme je te parle là. Il n'empêche que c'est des grands moments de solitude, hein. Quand on ne peut pas se doucher jusqu'à 16 heures, ouais. Quand on ne peut pas manger, quand on est en train d'essayer de consoler un enfant toute la journée qui pleure et qu'on n'arrive pas à le consoler. Parce qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que Ulysse, en fait, il avait un RGO qui n'a pas été diagnostiqué. Et aujourd'hui, je le sais parce que j'ai un deuxième enfant et je vois bien que ce qui s'est passé n'est pas arrivé cette fois-ci. Et que, en fait, un enfant que tu peux pas accoucher et qui est tout de suite en train de pleurer, qui a toujours besoin d'être dans les bras et qui a des reflux permanents comme ça, bon, bah, c'est pas non plus.
En fait, t'es isolée sans être jamais seule.
C'est oui,
en
mais.
En postpartum.
C'est... Exactement. T'es isolée sans être jamais seule. C'est très bizarre. Parce qu'on pourrait penser que t'es toujours accompagnée, mais non, en fait. On fait de toi le seul adulte référent. Parce que ça pourrait être autrement. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours. Tu vois, c'est marrant, on parle de baby blues, d'hormones et tout, mais en fait, moi, j'ai commencé à dégoupiller quand mon ex est reparti travailler. Donc, en fait, le baby blues, bah, c'est très bien. Ouais. Aller mettre des mecs dans cette position, on verra si les hormones sont vraiment le sujet, tu vois. Non, le sujet, c'est de laisser toute seule une femme avec un bébé qui pleure tout le temps, en fait.
Puis c'est mignon, baby blues.
Oui, c'est ça, exactement. Tu dis, oh, un petit truc, ouais, c'est un ça. Petit bébé bleu. Donc, voilà. Et le deuxième, ben... Du coup, en fait, comme j'ai vachement travaillé ça, que j'avais fait mes années d'analyse, que l'air de rien, en fait, il y a une psy que j'ai interviewée qui m'a dit cette phrase que j'ai trouvée un peu agaçante parce qu'elle était très vraie. C'est qu'elle m'a dit, vous faites ce livre pour pouvoir faire un deuxième enfant. Et c'est vrai que moi, Choisir d'être mère, c'est un livre que j'ai presque écrit pour moi, en fait. J'ai écrit en prévenant tout le monde. Attention, en fait, c'est vraiment super dur de faire un enfant, ok? Et après, moi, j'ai pu refaire un deuxième.
Donc, tu l'as écrit entre Ulysse et Orso, c'est ça?
Mais j'ai mis 5 ans à le faire. Parce que c'était j'étais vraiment dans un truc. En fait, je trouve ça hyper dur, cette matière, de prévenir les femmes de choses difficiles. Si c'est pas du tout mon tempérament, je pense que ça s'entend. Je suis toujours en train de faire des petites blagues. j'ai pas du tout envie d'être la meuf qui dit ouais, ben, c'est un peu chaud le truc que tout le monde t'a dit, c'était super. En fait, c'est un peu hardcore, quoi. Donc j'ai pris soin dans ce livre de faire attention à dire tout ce qu'il y a de merveilleux aussi, à pas être... C'est pour ça que je fais beaucoup de blagues aussi. Hein.
Il est super sympa.
C'est que j'ai besoin de faire passer la pilule plutôt en douceur, quoi. Mais ça m'a aussi permis à moi de me dire, ok, voilà tout ce qu'il y a de difficile, et tout ce qui a été difficile pour toi, en fait, dans la parentalité, c'est bon, maintenant tu peux y retourner. Et de fait, j'y suis retournée la deuxième fois en étant hyper informée, hyper préparée, un truc tout bête, hein. Mais j'avais un mois de repas dans mon congélateur.
Ah, moi aussi.
Voilà. Non, mais ça, c'est une évidence. Hein. Enfin, c'est un truc qu'il faut dire à tous les gens qui vont avoir un enfant. Faites un mois de repas dans votre congélateur. Parce que ne pas manger, en fait, ça fait partie des choses, on le sait, hein, que c'est du bien-être psychique, en fait, quoi, de bien manger. Et moi, je me revois avec mes tartines de Nutella dans une main et mon bébé en train de hurler dans l'autre. En fait, ça se saurait si c'était une recette de bien-être. Une tartine de Nutella, enfant qui pleure. Non. Donc voilà, ça, j'étais hyper bien préparée. Et surtout, mon compagnon, Clément, lui, on s'est rencontrés, on a parlé tout de suite de ça. Et il a même posé des mots que moi, j'aurais pas posé sur ce que j'avais vécu. Il me disait, en fait, t'es un peu une grande brûlée de la maternité. Et de l'entendre dire ça, ça a fait que moi, je savais qu'aussi, j'y allais avec quelqu'un qui était en mode, ok, c'est bon, on va gérer cette situation à deux. Et de fait, ben, la première fois, je pleurais tout le temps. Et la deuxième fois, j'ai pleuré une fois, je crois. Ce qui est normal, parce qu'on est fatigué aussi. Et la seule fois où j'ai pleuré, il était en train de partir au travail. Il m'a vu commencer à chouiner sur le canapé. Il m'a dit, ok, je vais rester ici. Toi, tu vas dormir. Voilà, il a pris les choses en main plein de fois. Et vraiment, il m'ordonnait d'aller dormir. Parce que ça, c'est un peu mon problème. C'est que je ne sais pas déléguer et que j'ai une écoute de moi-même qui n'est pas ouf. Donc c'est ça que j'ai appris aussi dans la solitude. Il y a aussi ça, il y a aussi apprendre à se dire quel est mon besoin. En fait, là, j'ai besoin de dormir, donc je vais aller dormir.
Mais c'est dur, en pleine journée, t'es couché dans ton lit, ça te fait pas ça ou tu te dis, ah mais faudrait que je fasse ça en fait, et ça, ça pour le boulot, et ça.
Ah ben j'ai appris, hein. Mais Clément, moi, il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. C'est quelqu'un de très ancré, quelqu'un de qui m'a appris à méditer, qui lui-même médite. Bon, ça veut pas dire qu'on médite en ce moment, loin de là, au contraire. Mais en fait, il m'a fait accéder à cette intériorité que je découvrais un tout petit peu par l'analyse. Il m'a fait accéder à cette idée, en fait, c'est important d'être connecté à soi-même. Ce qui permet d'être connecté aux autres.
Ouais, bah justement, en parlant des pères, de tes fils, tout à l'heure j'ai dit tes postpartum, mais en fait c'est une période finalement qui concerne les deux parents. Ouais. Et c'est une période, on le sait, qui est challengeante pour le couple. Je trouve que justement on ne parle pas assez du baby clash, encore un mot mignon pour dire la tornade qui peut traverser un couple. À ton avis, qu'est-ce qui nous manque actuellement pour préparer les couples par rapport à ce qui va se passer, voire même éviter un potentiel baby clash?
On devrait concevoir des enfants comme on conçoit des maisons, comme on conçoit des travaux, comme on conçoit des contrats. Moi, j'en suis persuadée. Un enfant, c'est un immense bouleversement dans une vie. Ça bouleverse tout un quotidien. Et c'est complètement des choses qu'il faut discuter à l'avance en réalité. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on est dans des parentalités fantasmées. Mmh. Encore aujourd'hui, il y a toute cette mythologie de la maternité hyper heureuse. Enfin, moi, une expression que je vois encore parfois sur, sous des posts Facebook d'annonces de bébés. Que du bonheur. À chaque fois, j'ai envie de dire...
Non !
Pourquoi vous dites ça ? Vous êtes débile, en fait, quoi. C'est-à-dire que cette expression, en fait, elle est gravissime, en vrai.
Ouais.
Franchement. C'est-à-dire que, elle, en fait, non seulement elle ment, mais en plus, elle culpabilise les gens qui vivent autre chose. Enfin, moi, je trouve qu'il faudrait vraiment l'éradiquer, quoi. Enfin, elle devrait être punie par la loi.
Il faudrait mettre hashtag oui, mais pas que.
C'est ça. En fait, c'est la bonne expression, c'est beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup d'emmerde. Enfin, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ou beaucoup d'emmerde, mais aussi beaucoup de bonheur, pour que ça soit plus, tu vois, dans un bon sens. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, mais je trouve ça super qu'il y ait des comptes Instagram qui le fassent aujourd'hui, d'autres livres. Enfin, vraiment, mon livre est une sorte de petite brique parmi 10 000 et c'est super. Je pense qu'il faut dire en fait tout ce qui se passe potentiellement à l'arrivée d'un enfant. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave en fait. Moi, je préfère qu'on soit prévenu de trop et qu'à la limite, on ait eu super peur et qu'en fait, on se dise ah, mais en fait, c'était grave plus facile que ce qu'on m'avait dit. Plutôt que le contraire, c'est-à-dire moi, ce que j'ai vécu, partir la fleur au fusil en disant « Hey, on va bien rigoler par ici !» Et qu'au final, ce soit un peu la guerre, quoi.
Ouais.
Enfin, donc, ben, je pense qu'il faut dire que quand on dort pas, c'est une pente glissante vers la dépression, que rarement on est hyper sympa quand on n'a pas dormi, que ça crée des disputes dans un couple, que le meilleur moyen de ne pas se disputer, c'est de bien organiser les tâches, de savoir qui fait quoi, d'avoir un partage des tâches égalitaire, de communiquer, de bien communiquer, c'est pas juste se parler, c'est aussi bien se parler, que pas de libido, c'est normal. Pour moi, en fait, il faudrait limite que tout le monde fasse une thérapie avant d'avoir un enfant, en réalité, je pense. Parce que ça vient te chercher dans, dans les tréfonds de ton âme, là, enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, typiquement, la question de la libido... comme j'ai pas de sujet d'intimité à cet endroit-là non plus, mais j'ai des sujets que, intimes, mais c'est bizarre, c'est pas le même que tout le monde. J'ai des trucs dont je parlerai jamais, mais ça me gêne pas. Moi, j'ai plus de libido que mon mec, voilà. Ben, un de mes sujets, c'est apprendre à me dire que c'est grave ok, et que ben, c'est pas parce que là, il a pas envie qu'il n'a pas envie de moi en général. C'est pas parce que là, il a pas envie qu'il aura pas envie de moi un jour. C'est pas parce que là, il a pas envie de moi qu'en fait, je suis pas sexy et... et voilà, que je suis une queen, quoi, tout simplement. Non, mais en fait, il y a toute une question d'insécurité là-dedans.
Ouais.
Voilà, qui est pas simple à gérer, de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je vaux si mon mec n'a pas envie de moi ?» Enfin, et c'est pareil pour les mecs, de se dire « En fait, c'est pas parce que ma meuf a pas envie qu'elle ne m'aime pas. » Et ça, c'est des choses, moi, je trouve qu'il faut travailler en profondeur, en fait. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à formuler tout ça, c'est aussi parce que j'ai fait tout un travail de compréhension de moi-même, de mes insécurités, de valorisation de qui je suis, et de comprendre que ma valeur ne se trouve pas dans ce que je peux produire comme désir chez quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est mes sujets à moi, par exemple, tu vois.
Ouais, mais je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes d'entendre ça.
Bah, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des sujets différents.
Quand on te dit « l'enfant aussi nous enseigne quelque chose
», bien sûr,
c'est que ça te vient te taper dans des trucs. Moi, régulièrement, je me dis « je surréagis quand le petit fait ça ». C'est que ça doit taper quelque part.
Allez, moi, je trouve ça passionnant, tu vois. Ça, c'est marrant parce que c'est limite un sujet de livre en soi, mais je trouve ça tellement intéressant, tout ce que les enfants nous apprennent, quoi. Mes enfants me font grandir, tu vois. Enfin, ils m'apprennent tellement de choses. Ils m'apprennent à être patiente, ils m'apprennent à envisager le monde différemment, à le regarder différemment. Je trouve que dans les yeux d'un nourrisson, tu vois des choses que tu ne voyais plus. J'ai toujours cette anecdote que je trouve qui m'a bouleversée, mais... moi, je regardais plus les arbres avant la naissance de mon premier fils. Et un jour, on était posé dans le jardin de la maison où on habitait alors. Et il était dans son couffin, comme ça. Et puis, tu sais, je le voyais comme ça. Ses yeux suivaient un peu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il regarde ? J'ai levé les yeux. Et en fait, franchement, je pourrais chialer encore. C'est un truc qui m'a vraiment bouleversée, tu vois. C'est qu'en fait, il m'a fait revoir le vent dans les feuilles, quoi.
Ouais.
C'est un truc que moi, je voyais plus avec mes yeux de... débile adulte. Parce que donc, quand on est adulte, on est un peu chiant, quoi. On est un peu con, tu vois, on regarde plus le vent dans les feuilles. C'est genre, bonjour, c'est moi, Miss Univers.
Pocahontas.
L'air du vent.
Mais oui, ils sont dans l'instant.
Ouais.
Et toi, ça te ramène à... le matin, tu sais, quand t'es pressé, vas-y, on met les chaussures, on met le manteau et tout. Non, eux, ils sont dans le... Non, mais en fait, là, je suis en train de jouer.
Ouais, c'est ça.
Et ils comprennent pas le... On va là, mais on est en retard. Enfin, là, de toute façon, la temporalité... Il y a un truc qui s'est passé il y a une heure, il te dit « l'année dernière !»
Exactement, mon chat, c'était il y a 2 minutes.
Mais ouais, c'est assez génial. Quelle est la place des mères dans la parentalité, selon toi ?
Beaucoup trop importante. Non, mais comme je disais tout à l'heure, on sait qu'elles font 2 fois plus que les hommes. Ce à quoi j'aspire pour les mères, c'est qu'elles puissent s'appartenir plus. C'est Fiona Schmidt, que j'adore, qui a cette phrase dans le podcast de Tiffany Cooper, que j'aime beaucoup aussi, qui dit, en fait, le temps pour soi, c'est une expression féminin. Parce que jamais tu dis, ouais. Jamais un mec ne dit, là, j'ai besoin de temps pour moi. Tu sais, c'est vraiment le temps pour soi, c'est vraiment un truc genre tellement féminin, quoi. C'est, genre, j'ai jamais vu un mec dire là en fait, vraiment, moi j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver.
Ouais, déjà, ils y vont au moins une fois par jour 30 minutes. Hein,
non, mais c'est ça, les toilettes, c'est ça. Enfin, je sais pas si elle disait, mais c'est juste du temps, tu vois.
Ouais.
Eux, c'est du temps, tu vois. Enfin, voilà. Et moi, c'est à ça que j'aspire en fait, profondément. Ouais. C'est que cette meilleure répartition fasse que les femmes. Qu'on puisse conjuguer le temps pour soi. Enfin voilà, qu'on puisse le passer aux deux genres plutôt. Et puis, même pour les pères, en fait, tu vois, enfin, je trouve ça hyper injuste, en réalité. Moi mon discours, il n'est pas du tout anti-père, encore que ça dépend qui. Mais il y en a certains, franchement, des petites claques. Je reçois des témoignages parfois sur mon compte Instagram où, genre, je suis juste. Vraiment, je garde mon calme parce que j'ai pas envie de juger les gens non plus et que je sais que c'est compliqué, que je sais qu'on fait tout ça avec ce qu'on a. Enfin voilà, mais il y a quand même des histoires où t'es là genre waouh, enfin là franchement ça va loin quoi. Mecs voilà qui ne font rien du tout, hein, mais vraiment rien.
Ah oui.
C'est hallucinant, enfin c'est-à-dire que qui savent même pas, enfin tu vois, qui arrivent chez le médecin et qui appellent la mère parce que ils savent pas. Des trucs tout bêtes, quoi. Enfin,
Baptiste Beaulieu en parle très bien.
Ouais, hein. Voilà. Mais j'ai, en fait, c'est, moi, j'ai même plus les exemples en tête. Je crois que c'est des exemples, tu sais, j'ai ma mémoire a tendance aussi à excuser les trucs que je trouve un peu, mais parfois, je lis des choses, je suis là, genre. Bref. Donc voilà, moi, je trouve que c'est pour les pères. Tu vois, je revois mon mec quand il a repris le travail, on était tous les deux dégoûtés, en fait. D'où c'est moi qui reste à la maison alors que j'ai accouché il y a un mois. Que je suis encore fatiguée, que je suis encore pas bien, et que dans le fond, ça m'irait bien de sortir un petit peu, justement, après 9 mois de grossesse, de m'aérer un peu et tout. En fait, je trouve ça quand même dingue quand tu réfléchis ce truc-là, on assigne les femmes à la maison. C'est-à-dire qu'elles ont porté le bébé, c'est elles qui restent avec le bébé. C'est pas logique, en fait, parce qu'elles devraient pouvoir se remettre tranquillement de ce qui s'est passé, qui est quand même un chaos, hein. La grossesse, l'accouchement, c'est intense, quoi. Et mon mec, lui, il était dégoûté aussi. Il me disait, j'ai pas envie de vous laisser, En fait, je suis dégoûtée d'aller au travail. Mon bébé, c'est mon tout petit. J'ai envie de rester avec lui. Et voilà. Et je pense qu'en fait, la bonne situation, en réalité, elle est probablement entre les deux. Je dis pas que moi, il aurait fallu que je reprenne le travail ou que lui, pas du tout. Mais en fait, il y a un truc qui est pas au point, quoi.
Puis même dans l'acquisition des compétences.
Bah, oui, oui.
C'est toi, tu restes à la maison avec l'enfant. Forcément, tu vas acquérir des compétences.
Ouais, c'est ça.
Plus que les pères. Toi, René Grosart, tu t'es sentie effacée pendant tes postpartums?
Pendant le premier, ouais, c'est même plus qu'effacé. J'ai eu l'impression d'être écrasée. Pendant le deuxième, non, parce que j'avais fait ce travail sur moi qui était nécessaire. Mais c'est pour ça que quand moi je parle des difficultés à la parentalité, je dis toujours, et je le dis dans mon livre, enfin voilà, moi ce que j'ai vécu, ça m'appartient aussi. Enfin, j'avais mes propres problématiques. Et je dis pas du tout que tout le monde va rencontrer ces difficultés. Mais il n'empêche que quand même, il y a beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés. Et moi, je sais que mon travail analytique fait que j'ai rencontré mon deuxième postpartum beaucoup plus sereine et que je ne me suis pas sentie effacée. Au contraire, c'était un moment assez doux. Il y a eu des moments difficiles, mais je n'étais pas du tout dans quelque chose d'aussi chaotique et douloureux que la première fois. La première fois, c'était très, très dur. Mais même avec tout ce travail, j'ai trouvé ça pas simple non plus, hein, quand même. C'est-à-dire que moi, je pense que les questions à mon endroit étaient plutôt réglées. Enfin, mes questions psychologiques, on va dire. Mais en revanche, j'ai quand même trouvé ça difficile, hein, de sortir avec son bébé, de passer des journées entières à être hyper sollicitée. Je trouve que c'est un marathon, en fait.
Comment tu t'es retrouvée ?
Attends, juste, quand je dis marathon, ça m'évoque quelque chose.
Ouais.
C'est que, justement, je trouve qu'on demande aux mères de faire un marathon après avoir vécu une grossesse et un accouchement.
Ouais.
C'est ça, en fait.
C'est
tu vois. et que si on laissait les pères ou les coparents prendre le relais, si on les laissait à minima avoir le même temps, on leur demanderait pas de courir un marathon après avoir. Mais là, c'est ça qu'on demande aux mères. Et moi, je trouve ça dingue, en fait. Toi, je trouve ça lunaire. Donc, comment je me suis récupérée ? Faisant le contraire de ce que j'avais fait la première fois. parce qu'en fait, je trouve ça super intéressant, la différence entre se retrouver et se récupérer. Se retrouver, c'est essayer de se dire, moi, René Grosard, je suis quelqu'un qui aime la fête, qui aime boire des coups, qui aime sortir. Donc, en fait, c'est comme ça que je vais me retrouver, c'est comme ça que je vais me récupérer. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, à la limite, tu vas retrouver qui tu étais. Et donc ça, en fait, il faut aussi dire qu'il faut arrêter avec cette idée. Ouais. Le toi d'avant, c'est défini. Définitivement, dead, en fait. Enfin, tu es une autre personne désormais. Enfin, tu ne seras plus jamais la personne d'avant. Et ce n'est pas grave. C'est quelque chose d'autre qui naît. Mais il faut accepter, il faut dealer avec ça, quoi. Et bah, donc, la deuxième fois, j'ai compris que se retrouver, ce n'était pas se récupérer. Et donc, se récupérer, bah, c'est dormir, en fait. C'est faire des siestes, c'est méditer, de la cohérence cardiaque, tous ces trucs. Franchement, je pense que c'est hyper marrant quand je parle comme ça, parce que je me dis, si la moi d'il y a 15 ans s'écoutait parler, elle me dit, mais qui est cette meuf trop relou et vraiment trop boring? De quoi parle-t-elle? De yoga? Ok, super.
Et qui rêve d'avoir un bicep pour son canapé, on en parlait tout à l'heure.
Et oui, parce que nous sommes actuellement assis sur un canapé dégueulasse.
Non, c'est toi qui dis ça.
Non, bah, c'est un canapé rose clair et voilà, il est à l'image de ma vie depuis mes enfants tachés. Mais aussi rose, heureux.
Quand tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, quand tu écris bah, tes deux essais notamment, enfin, tu as écrit plusieurs livres, mais les deux essais, Enceinte, tout est possible et Choisir d'être mère, est-ce que tu as beaucoup d'avis négatifs? Et si oui, quels sont-ils? Enfin, ceux qui reviennent le plus, en fait.
Tu veux dire, est-ce que les gens expriment des choses négatives des commentaires, par rapport à ce que moi, je dis
ouais. Ou contradictoires?
Alors, en fait, il se trouve que moi, je crois que je présente les choses toujours comme des réflexions, parce que je déteste les injonctions. Donc, je dis jamais aux gens, faites ci, faites ça, et ce que je présente, c'est toujours, je suis en train de réfléchir à ça, voilà, et les gens me disent leur avis. Donc, ça donne jamais du « Ah non, je suis grave pas d'accord
ouais. »
ou « Ah oui, trop... » Enfin, si, ça, à la limite, un peu. Non, il peut y avoir des gens qui disent « je suis pas sûre d'être d'accord », mais c'est jamais hyper frontal parce qu'on est vraiment, je pense, sur ce compte, moi je le vis un peu comme mon compte, mais aussi comme le compte des 25 000 personnes qui le suivent. C'est un peu bizarre, mais je sais pas comment toi tu vis ta communauté, mais il y a un truc où moi j'ai l'impression de faire un truc ensemble, quoi.
Ouais.
Mais aussi parce que moi, bon, je partage beaucoup de témoignages de gens,
oui.
Et donc du coup c'est une réflexion que je construis avec les gens, où leur avis m'intéresse, où ils m'apprennent des choses, enfin c'est hyper... C'est une réflexion tous ensemble, quoi. Tous ensemble, tous ensemble. Tous, en l'occurrence. Je pense que j'ai une communauté de gens qui sont majoritairement des femmes, sensibles à ce sujet, concernées, et donc hyper bienveillantes, parce que c'est souvent des vécus qu'elles ont partagés. Une fois par an, peut-être, il y a une femme qui dit « Eh ben, gna gna gna, moi, tu vois,
ouais.
je sais pas ce qu'elle dit exactement, mais tu vois l'idée. »
Mais avec le ton, ouais. Voilà. On les imagine tous en train de dire « gna gna gna
gna ».
Je pense qu'il y a une façon, comme tu dis, de présenter les choses. Moi, les messages pas cool, j'en ai, ça se compte vraiment sur les doigts de la main, sur une année. C'est hyper rare. Et puis quand c'est comme ça, en fait, je me fatigue pas, je bloque.
Ah bah oui.
Par contre, ça m'est arrivé sur des comptes de consoeurs qui font des contenus humoristiques ou pas sur justement les inégalités maman-papa, quoi. Et notamment, j'avais une nana qui avait fait, en gros, la charge mentale avant les vacances. En fait, que toi, tu devais penser à tout, en fait, et que le père, s'il faisait sa valise, c'était le bout du monde. Et moi, j'avais mis, je sais plus du tout ce que j'avais mis en commentaire, mais en plus par un truc vindicatif, quoi. Et il s'est trouvé que ce reel, il a fait genre 1 million de vues. Et le problème, c'est que quand tu fais 1 million de vues...
Bah, bien sûr.
En fait, c'est pas la taille de ton compte qui est importante, c'est le nombre de vues.
Ouais, le reach
de... Parce que là, pour le coup, tu vas tomber sur des gens qui ne te suivent pas.
Bien
parce
sûr.
Que les gens qui te suivent ont choisi de te suivre et ils sont... plus ou moins déjà d'accord avec toi. Il y a un truc très, je trouve, bienveillant qui se crée, en fait. Et il y a une relation même de proximité qui est assez cool. Mais alors, dès que tu passes sur des gens qui ne te suivent pas, là, c'est pour ça que TikTok, j'ai beaucoup de mal. Parce que là, du coup, c'est open bar. Et moi, il y a eu plusieurs commentaires sous mon commentaire en disant, en gros, fallait choisir par qui tu t'es fait engrosser. Et là, je me suis dit, c'est quand même fort de Roquefort. de alors tu dis en fait, pardon, tu dénonces un truc, ouais, je sais, je vois pourquoi je dis ça. Et toi, tu dénonces un truc, mais en fait, c'est quand même ta faute, parce que c'est toi qui as mal choisi. En fait, tout retombe sur les femmes à chaque fois, parce qu'en gros, c'est toi qui as mal choisi le père de tes enfants.
Il faudrait retrouver les chiffres, hein, mais il y a une étude IFOP qui a été faite sur ce sujet précis de la valise avant les vacances. C'est 74% des femmes qui faisaient, dans mon souvenir, hein, et je suis quasiment sûre du chiffre parce qu'il m'avait choquée, 74% des femmes qui faisaient les valises de leur enfant avant de partir en vacances. Donc je veux bien hein, que tu l'aies mal choisi, mais à un moment donné, quel est notre vivier, s'il vous plaît?
Voilà. Ah oui, non, mais moi je pense bien jour off avant les vacances. Hein.
Bah, je comprends. Évidemment,
pour faire les valises et pas la dernière. Et encore, je fais, enfin, mon mec se fait sa valise parce que j'ai des copines qui font la valise de leur mec. Non, là, j'ai dit non, c'est la cristallisation de la cistana en fait.
Non,
pour moi,
stop,
on dit que les hommes occupent l'espace public et que les femmes s'y occupent ou juste le traversent. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Oh bah ça m'évoque mon mercredi matin tout simplement. Le mercredi matin, j'habite à Montreuil, je suis une bobo un peu cliché. Mon fils le mercredi a comédie musicale et cirque. C'est pas une blague, c'est vrai. Mais donc quand j'emmène mon fils à la comédie musicale, je prends une rue. Et à chaque fois je me dis, j'ai l'impression d'être dans un petit jeu genre Mario. Parce qu'il y a plein d'obstacles sur ma route. J'ai la poussette avec Orso dedans et Ulysse à côté de moi. Et vraiment, je me retrouve sur la route parce qu'il y a des poubelles, c'est le jour des poubelles, donc il y a des poubelles qui sont sorties. La poussette ne peut pas passer avec les poubelles. Il y a des travaux en plein milieu et je me retrouve encore une fois sur la route. Le mec qui s'est garé avec son scoot, vraiment tout ça, c'est tous les mercredis matins sur le passage clouté. Et à chaque fois, je me dis, en fait, voilà, donc on sait que les femmes s'occupent le plus des enfants, donc on sait que c'est elles qui sont le plus avec les enfants dans l'espace public. En fait, l'espace public n'est pas adapté pour nous, pour nos sorties avec nos poussettes et nos enfants. Donc, en fait, c'est une incitation à rester à chez soi. Mm. Parce que, sincèrement, là, moi, les difficultés que je rencontre, c'est qu'une rue. Mais il faut s'imaginer ce que c'est quand tu veux prendre le métro et qu'il n'y a pas d'ascenseur et que tu as ta poussette. Moi, il y a plein. Enfin, je sais que pendant mon postpartum, le deuxième, par exemple, contrairement au premier où j'étais vraiment dans un truc de déter, justement, où j'arrêtais pas d'essayer de me retrouver plutôt que de me récupérer, et je faisais des déjeuners tout le temps, etc. Là, pendant le deuxième, je suis quasiment pas sortie de Montreuil, alors que j'habite tout près de Paris, etc. Mais parce que je voulais pas prendre le métro avec la poussette. J'avais le dos en vrac de mon accouchement. Enfin voilà, mon périnée était plutôt OK. Mais en revanche, je sentais encore des douleurs un peu dans toute cette zone, on va dire, globalement. Je sortais pas. Quelle aurait été ma vie si j'avais pu prendre des escaliers, des ascenseurs Donc il y a un moment donné où l'espace public est effectivement pensé pour des hommes et des hommes valides.
Oui, parce que les personnes à mobilité réduite, c'est pareil. D'ailleurs, c'est avec la poussette que ça m'a frappée. Je me suis dit, mais comment font les personnes en fauteuil roulant, en fait?
Mais non, mais c'est un enfer. Là du coup, t'es chez moi, l'ascenseur est en panne depuis deux semaines chez moi. Donc je me suis retrouvée à hurler avec la meuf du syndic. En fait, on essaye de faire avancer le truc. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Ce n'est pas à vous de me contacter, c'est le propriétaire !» Et j'étais là « Mais je vais vous défoncer, en fait !» Bon, bref. Et donc, elle m'a rendu ouf. Mais en fait, c'est te dire, moi, j'hallucine. Nous, on se débrouille avec mon mec, on porte la poussette, etc. Mais on est au quatrième étage, et c'est des étages... Enfin, là, on est dans un immeuble plutôt moderne. C'est des appartements, pardon, qui sont conçus pour être accessibles pour des personnes en fauteuil roulant. Mm-hmm. Donc, en fait, si moi, je suis en fauteuil roulant, là... Il se passe quoi? En fait, je ne peux pas sortir pendant deux semaines. À moins que je me fasse aider par... Et même, là, je parle d'une situation qui est censée être extrême, parce qu'en fait, il y a un ascenseur ici qu'on va récupérer à un moment donné. Mais en fait, le métro parisien, on interdit la circulation à des gens qui sont en fauteuil roulant. C'est hallucinant. Hein. Enfin, même moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des actions en justice de personnes en fauteuil roulant pour dire... Voilà, une discrimination, tout simplement. Parce que c'est une discrimination de... l'usage de l'espace public. Et certes, c'est pensé de plus en plus, et toutes les stations, quand elles sont modernisées, voilà, c'est étudié. Mais il y a un moment donné où, en fait, c'est inadmissible, en vrai, quoi.
Et puis, même une fois que tu as réussi à prendre le métro, souvent, les magasins sont tout petits, fin, entre les portants.
Ouais.
Si tu trouves un restaurant qui accepte les enfants, ou qui a une table allongée, c'est compliqué. Je pense que la réponse est un peu dans la question, mais je voulais quand même ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui manque à notre société, selon toi, pour mieux accueillir les enfants? Et donc les mères?
Bon, en fait, c'est juste de penser les enfants, tout simplement. Et penser les enfants, ça veut déjà dire s'en occuper à plusieurs. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que je pense que pour être bien autour d'un enfant, en réalité, il faut être une communauté. C'est pas pour rien que dans plein de sociétés, en fait, on a voilà, tout un village autour des enfants. Enfin, c'est vraiment un poncif, hein. Il faut tout un village autour d'un enfant. Mais c'est vrai, en fait. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un tel choc en devenant mère. C'est que ma mère est sénégalaise et que j'ai compris subitement pourquoi elle retournait à chaque fois au Sénégal pour accoucher. Quand on est trois, quoi. Quand j'étais gamine et qu'on me demandait, je disais oui, elle voulait voir sa maman. Non, elle voulait pas voir sa maman. Ma mère s'est occupée... De nous trop si peu qu'elle a fini par râler parce que toutes les nuits c'était sa propre mère qui s'occupait de nous et en fait au bout de 2 mois elle a dit en fait vous me saoulez, j'ai envie de m'occuper de ma fille la nuit. Donc il y a quand même des cultures où c'est vachement enregistré, compris qu'en fait il faut être plusieurs autour d'un enfant. Donc moi je pense qu'il faut repenser l'enfant pas forcément au centre mais comme faisant partie de la société, ce qui implique d'être dans des réflexions. En fait le problème c'est aussi, je suis désolée hein, franchement je suis une indécrottable gauchiste. Mais bah, le problème, en fait, c'est le capitalisme, hein, tout simplement. Oui. Non, mais en fait, tu peux pas conjuguer à la fois le soin de gens qui ne sont pas productifs et le capitalisme. Ouais. C'est forcément antinomique. Et les problèmes qui se posent pour les enfants sont exactement les mêmes problèmes qui se posent pour des personnes âgées, pour des personnes en fauteuil roulant, comme on disait tout à l'heure. Une société, moi, que je trouverais plus juste, c'est une société qui penserait les gens qui ne sont pas capables de produire, en fait. Donc voilà, et typiquement, tu vois, on parlait des restaurants. Moi, je trouve ça franchement dingue à quel point, quand t'es parent, si tu veux aller dans un endroit qui pense à ton enfant, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, il faut aller dans des endroits dont tu rêves pas. Le McDo, Hippopotamus, enfin, tu vois, j'y vais pas pour autant parce que c'est vraiment pas ma cam, hein, et que c'est pas mon habitus culturel, on va dire. Mais bah, pour le coup, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi des boîtes qui ont compris... l'intérêt capitaliste qui a à s'intéresser, voilà. Mais donc c'est un peu contradictoire avec ce que je dis, mais en même temps il y a quand même ce truc où il y a une culture qui est pas, je sais pas comment dire, où on efface complètement les enfants de la photo, quoi. Et moi l'endroit que je préfère au monde dans mon quartier, c'est la place où j'habite là, qui est juste à côté d'ici. En fait t'as un café qui est sur la place en terrasse, et donc à partir des beaux jours tu peux te poser en terrasse et juste en face t'as un parc avec les enfants qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et toi, tu les surveilles en buvant un verre avec une pote. Mais ça, en fait, c'est parfait. Parce qu'un bon endroit, c'est pas un endroit qui est juste pour les enfants, ni un endroit qui est juste pour les adultes. C'est un endroit qui pense à tout le monde. Et qu'après, si t'as cette base-là, il puisse y avoir des endroits où on dise, en fait, là, on a plutôt un peu envie d'être sans les enfants. Parce qu'on sait nous-mêmes. Ouais. Hein. Tu vois, je veux dire, nous-mêmes, il y a des moments où on n'a pas envie, en fait. D'avoir « Maman ! Maman, regarde ! Regarde, maman !» J'ai vu, tu es descendu du toboggan, c'est waouh! Donc voilà, on sait nous-mêmes qu'il y a des moments où on n'a pas envie de ça. Mais en revanche, voilà, il faudrait que ces endroits soient pensés autant, ou peut-être, pour moi, la priorité c'est quand même de penser des endroits mixtes en fait. Là pour l'instant, les endroits ne sont pas mixtes.
Mettez des buvettes dans les parcs.
Ouf, mettez des buvettes dans les parcs en fait. À quel moment vous avez cru que ça nous amusait de nous asseoir sur un vieux blanc tout pourri à regarder un enfant qui dit maman, maman, regarde! Non, en fait, vraiment, enfin, pas intéressant, je suis désolée.
On va terminer cet épisode par la question que j'aime bien poser à la fin. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre à tes fils et comment ?
Moi, ce que j'aimerais leur transmettre, c'est l'amour des autres, l'empathie. Et alors, dit comme ça, c'est très cucu, mais pour moi, l'empathie, c'est le truc le plus important au monde. Et je le dis parce que je pense que c'est un peu au cœur de tous les sujets qu'on a abordés, c'est qu'on juge moins les autres quand on est empathique, on est plus sympa avec une mère dans un train quand on est empathique, on réfléchit mieux les endroits quand on est empathique, et les lieux. Et je pense que pour accéder à ça, il faut aussi s'aimer soi-même. Et c'est la phrase de RuPaul que j'adore. Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est RuPaul.
Non.
C'est une télé-réalité qui met en scène des drag queens. C'est vraiment trop, trop bien. Et il y a des saisons françaises. Là, il va y avoir la troisième saison. Yes. C'est comme une ouf. Et RuPaul a cette phrase qui est magique qui dit « How can you love someone if you can't love yourself ?» Et donc, ça veut dire en gros, comment tu peux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Et ça, c'est super important. C'est que c'est un truc très bizarre mais que j'ai découvert moi en thérapie, c'est que pour comprendre les autres, quelque part, il faut très bien se connaître soi-même et très bien se comprendre soi-même. Et RuPaul finit toujours en disant « Can I get an amen to this ?» Ça veut dire « Est-ce que je peux avoir un amen to ça ?» Et tout le monde dit « Amen !» Et voilà, et c'est un peu c'est un peu ce que je leur souhaite, quoi. De s'aimer assez pour aimer les autres et d'aimer les autres à la hauteur de la façon dont ils s'aiment eux-mêmes.
Merci, René.
Il n'y a pas de quoi. Miss Univers.
« merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @lananasblonde, pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.